sur la page internet, donc, nous pouvons lire que des choses comme Thomas D est un citoyen du monde, un arpenteur de culture autre, donc il transcende par le talent les règles et les frontières. Olivier Ledroit est le père surdoué, avec François Fragval, des chroniques de la Lune Noire. Mais Thomas D est aussi un touche-à-tout de l'imaginaire. Auteur, anthologiste, éditeur, chroniqueur, il cumule les fonctions comme les noms. Olivier Ledroit est aussi le créateur d'un style qu'on appelle la fantaisie gothique en BD. Il a multiplié les expériences avec ou sans scénariste jusqu'à devenir lui-même éditeur pour ajouter une corde à sa palette. Ensemble, ils donnent naissance à Wicca, à la croisée du songe du nuit d'été et du clair-obscur des plus authentiques contes de fées. Alors, la question, c'est des questions tout à fait bateau par rapport à ce genre de truc, mais c'est généralement le cas quand on parle de collaboration. Votre rencontre, vous nous en parlez ?
C'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Je n'ai pas calculé exactement, mais je pense que ça fait 20 ans que je connais Olivier. Il y a longtemps, dans une vie précédente, j'étais à Amiens, je travaillais dans la restauration, et à côté de ça, je faisais des petites choses sur la BD, sur les festivals et tout. Et j'avais invité Olivier et Guillaume Sorel à faire une expo à venir pour une manifestation. On s'était rencontrés à ce moment-là. Et puis, quand je suis arrivé chez De Noël en 98, j'ai eu la bonne idée de lui demander de faire plein de couvertures. Et il a fait plein de couvertures. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à parler d'une éventuelle collaboration. Alors d'abord, c'était moi qui demandais, tu vas pas faire ce truc ensemble. Et puis, un jour, il m'a appelé. Je pensais très sincèrement que c'était pour mon roman du 16 sur les paupières. Et puis non, il m'a appelé pour Wicca. T'as un bon résumé ?
Donc on parle juste de votre rencontre et de votre décision de travailler ensemble pour l'instant.
C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire le scénario moi-même et puis je voyais bien qu'il y avait toutes sortes de difficultés et comme j'aimais bien ce que c'est Jim, je lui ai proposé d'aventure. Je n'avais jamais fait de choses sauf
Et la collaboration s'est passée comment ? Qui a fait quoi ? Comment vous avez décidé de vous mettre ensemble, de faire cette petite chose à deux ?
Moi j'aimais beaucoup la voix du sabre. Donc ça faisait un moment que je trouvais que l'idée de travailler avec Gilles me tournait dans la tête, mais je ne savais pas sous quelle angle aborder ça. Pour Wicca, il y avait une trame de scénario inspirée des contes de fées qui était assez simple. Et ensuite, on a développé tous les deux un peu la façon ping-pong. On s'est envoyé beaucoup de mails pendant 6 mois. Moi, j'ai fait pas mal de croquis.
On n'entend rien ?
Voilà.
De mon côté, le procédé a été long, fastidieux et assez complexe. D'abord, j'avais jamais fait de BD, j'avais jamais fait de scénario. Donc c'est quand même Olivier qui m'a appris le métier et qui m'a envoyé un scénario de Patmus à décortiquer. Très sincèrement, quand j'ai lu le scénario de Patmus, je me dis, bon, moi, je suis pas, ce que tu fais, c'est pas mon truc, ça va pas être ça. Donc j'ai acheté des tas de BD, j'ai vraiment choisi le plus mauvais. Il y a Alan Moore et compagnie, que j'ai un petit peu décortiqué leur scénario. Et puis, j'ai fait des propositions à Olivier, il est revenu, on est revenu. Et après, on a vraiment commencé à bosser ensemble quand je suis venu chez toi. Et là, on a commencé, lui, dessiner. Moi, je disais, bah, là, c'est pas mal qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. etc. Alors, il faut savoir que travailler avec Olivier Ledroit, c'est absolument génial. Mais c'est un peu le truc à la Sherlock Holmes. C'est-à-dire que vous avez des problèmes à une pipe, à deux pipes, à trois pipes, à un vrai problème. Et notamment, il dit, voilà, je vois telle scène. Superbe. Et comment on la met dans le scénario? Ah ben non, ça Gilles, ça va pas te voir. Hein. D'accord. Et sinon, j'ai fait ça, 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 ça comme dialogue. Ah ouais? Et ils disent quoi là? Ah ben non, ça va pas te voir. Ils discutent et tout. Ils se battent, ils discutent, donc ils discutent et tout. Donc en fait, c'est une collaboration. C'est toujours l'image qui prévaut sur le texte, sur les arcs narratifs. Et je suis là pour servir son dessin, servir les visions qu'il a, qui sont, que c'est l'album, sont des visions dantesques, très verticales pour certaines, comme la ville d'Avalon, etc. etc. Donc c'est un travail, c'est vraiment un travail d'échange permanent, et on peut passer, je sais pas, sur le tome 2, la scène des faits noirs, on va passer 2 mois dessus, je sais pas combien, quoi. On peut passer 2 mois sur une seule scène de 4 pages ou de 6 pages. Mais voilà, c'est passionnant. Moi, c'est un outil que j'ai appris, donc c'est pour ça que ça a été bon au départ. Et comme je dis toujours, à chaque fois que j'ai une interview au sujet de Lucas, maintenant que j'ai commencé, je ne peux plus arrêter de faire tout ça ou presque.
Mais ce n'était pas votre première collaboration, pas ensemble, hein, mais toi, toi, Olivier, tu as travaillé avec plusieurs scénaristes. Toi, Thomas, tu as écrit avec Hugo Bellagamba, par exemple. Est-ce qu'une collaboration se fait toujours de la même manière ou est-ce que justement ça diffère d'un couple à l'autre?
Oui, oui, d'un couple à l'autre, ça change complètement la façon de travailler avec Froid de Val ou Mills ou Gilles n'est pas du tout la même. Avec Gilles, on part plus sur un terrain d'égalité. Sur les chroniques, le scénario était déjà un petit peu écrit au départ quand j'ai commencé. Donc j'ai apporté ce que j'ai pu, mais c'était difficile de me faire ma place dans le scénario de François. Avec Mills, c'était encore différent parce que il y avait la barrière de la langue. Hein. Lui, il ne parle pas le français, moi pas l'anglais. Donc on était obligé de passer par un troisième qui nous traduisait l'un et l'autre. Donc on se mettait d'accord une fois tous les 3 mois, et ensuite on partait travailler chacun de notre côté. Avec Gilles, il y a plus d'échanges, c'est pour ça aussi que je voulais travailler cette fois à Scénario Express.
Écrire un roman avec Hugo Bellagamba et faire une BD avec les vieux droits, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, c'est le jour et la nuit, ça n'a pas de rapport. En dehors du fait que c'est une collaboration, mais il n'y a pas de dénominateur commun. D'abord parce que la BD, c'est un art, il faut passionner, sauf si vous appelez à l'amour, mais l'apport du scénario est assez faible, c'est ce qui emporte, c'est le dessin. Là, sur le cas, ce qui emporte tout, c'est le dessin. Donc le rôle du scénariste, tel que je le vois, moi, c'est de servir son dessin, et c'est de toujours être là pour que tout tienne, en fait, c'est que les scènes soient logiques, que tout soit dans l'ordre, entre guillemets, chaque personnage, c'est un peu comme The Avengers, il y a plein de personnages, il faut que chaque personnage ait plus ou moins son quart d'heure de gloire et que les personnages apparaissent bien et qu'on n'ait pas complètement zappé un personnage et tout. C'est un niveau d'équilibre, on est là pour équilibrer l'album. Et puis alors moi, ce que je voulais sur Wiki avec quelque chose, j'ai essayé de vraiment, pas imposer, mais de convaincre Olivier là-dessus, c'est que je voulais un album avec des mouvements lents, amples. Des scènes de 8 pages, des scènes de 10 pages, et pas un truc complètement épileptique, avec des scènes de 2 pages qui s'emboîtent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ce rythme-là, on l'a sur le premier, on a essayé de le garder sur le deuxième, même si le deuxième est un peu plus musclé à mon avis. Je le vois là, le rôle du scénariste, c'est vraiment dans dans garder bien l'esprit où on va. Là, en plus, on a écrit 4 albums. Un synopsis d'un coup, donc il faut bien garder, on va le rythme, sur le tome 3 on sait qu'il va se passer ça, sur le tome 4 on sait comment on va finir, il faut qu'à la fin du tome 2 on soit bon, qu'on ait appris ou de l'avance ou du retard, c'est ça, c'est un travail d'équilibre.
Justement, à partir de ce moment-là, j'ai envie de demander à Thomas D. quelle est sa relation à l'image et au niveau de droit, sa relation au texte.
Moi, le rapport est un peu bizarre parce que j'étais fan avant de travailler avec Olivier. J'étais vraiment, quand j'avais J'ai un peu quitté la BD classique franco-belge via les chroniques de mémoire que mon frère avait acheté, j'avais fauché dans sa chambre. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait une autre BD. Moi, je croyais qu'il n'y avait qu'une Tintin qui voulait lire. Et d'un seul coup, j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Et j'ai découvert Sorel comme ça et j'en ai découvert d'autres. Donc, le rapport à l'image, c'est vrai que j'ai Chevillier qui me dit c'est ça que tu avais en tête pour telle scène. La vérité, c'est non, j'avais pas tellement en tête quoi que ce soit pour telle scène. J'avais mon texte, j'avais mes dialogues, je savais comment je voulais que ça tombe, le rythme et tout. Après, c'est vrai que c'est toujours surprenant. Les couleurs, c'est pas ce que j'imaginais. Les personnages, je les voyais pas forcément comme ça. Le découpage, alors Olivier fait son découpage. Je n'ai pas de découpage. C'est des suggestions des fois, mais c'est vraiment Olivier qui fait son découpage. Alors, tout simplement parce qu'il a un découpage clinique. Il y a très peu de gens qui découpent comme lui. Donc c'est son truc, c'est sa construction. Donc moi, les scènes, je ne peux pas les visualiser. Quand je fais le scénario, je sais où je veux aller, je sais où je veux l'emmener. Mais c'est lui qui s'empare du truc, qui le pervertit, mais en fait, à sa sauce. C'est pas du tourisme, c'est du le droit, voilà. C'est, moi, je suis là pour servir son dessin.
Ouais, la vision des scénarios, je fonctionne, j'ai un esprit brouillon, donc je fonctionne avec beaucoup d'images décousues, de séquences, de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est Gilles qui organise un petit peu tout ça pour moi. J'ai dû écrire, je vais faire une dizaine de bulles, même pas peut-être 100. Souvent, on a essayé de commencer avec les dialogues que je puisse découper, et en fait, on est reparti sur la version précédente. En fait, je fais les découpages et ensuite on construit les dialogues ensemble. Il reste une souplesse d'organisation des bulles. Alors après, par rapport pour Gilles, je pense que c'est un peu compliqué d'être toujours succinct, quoi, parce que la bande dessinée fonctionne avec des bulles assez petites. C'est des phrases avec pas beaucoup de développement. Et il faut faire passer un maximum d'émotions et que tout soit clair et limpide. Quoi. D'autant que ce que j'avais mon désir sur Wicca, c'est qu'il y ait une sorte de fluidité et que ce soit agréable, qu'on ne voit pas le travail. C'est pour ça qu'il y a des scènes qui viennent très facilement. Et il y en a d'autres, comme là pour le tome 2, la scène des faits noirs, qui était partie pour être très simple. Et en fait, on s'est retrouvé avec beaucoup trop de choses à raconter en montage. Et c'est à ce moment-là, c'est quand il faut couper, et quoi couper, laisser ce qui est futile quand même, etc. C'est tout un travail de réglage qui est un petit peu compliqué. Et là, c'est bien d'être deux, parce que moi, j'ai pas l'esprit qui fonctionne comme ça pour écrire un scénario.
Et quelles ont été vos influences picturales et textuelles pour écrire ces bandes dessinées?
Les picards, c'est essentiellement les contes de Grimm. Après, il y a tout mon travail précédent. Pas uniquement sur la féerie, hein, et tout ce que j'ai fait sur le jeu vidéo, etc. qui est présent. Dans Wicca, il y a une recherche stylistique qui va plus vers la simplification dans le découpage. C'est-à-dire que les pages, une fois qu'on a enlevé toutes les fioritures, si on travaille sur la silhouette, les pages sont extrêmement simples. Parce que sur Requiem, j'en rajoutais pour compliquer la vie du lecteur, quoi. Tandis que sur Wicca, j'ai envie que ce soit limpide. Je l'ai fait lire à des enfants de 9 ans, ça va. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout exactement, mais il y a un certain nombre de choses qui prennent et qui sont agréables. J'ai vu ça pas mal avec les chroniques. En fait, ça plaît bien aux jeunes. Hein. Donc voilà, c'était un peu ma volonté.
Alors je confirme pour les enfants de 9 ans, parce que mon fils de 9 ans adore la BD, mais je soupçonne que c'est parce qu'il y a des filles à poil dedans. Mais il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Alors moi, j'avais aucune référence picturale quand je commençais à travailler avec Olivier sur Wicca, parce que de toute façon, il m'avait donné 400 pages de croquis. Donc, forcément, j'avais une lumière picturale devant moi, j'avais pas besoin d'avoir des références en plus. Mais j'ai plutôt de l'anti-référence, c'est-à-dire, personnellement, je voulais tout le contraire du Seigneur des Anneaux au cinéma. Pas un truc marron, pas un truc vu et revu mille fois. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu les Amadriales, la scène des Amadriales, qui est vert, qui est coloré, qui part dans les couleurs assez inhabituelles en BD. En fait. Là, c'était vraiment ce genre de choses que je voulais. Et puis, moi je suis assez, évidemment, ceux qui ont des olives ne sont pas surpris, mais je suis très, très friand du côté steampunk, du côté mélange d'époque, mélange de genre. C'est un truc qui m'éclate vraiment. Les pages que j'aime le plus, globalement, ce sont les pages où il y a plus d'engrenage, où il y a plus de mécanique, assez, le bras de Gorm explose en milliers de pièces détachées. Ça, vraiment, c'est un imaginaire qui est vraiment...
Mais justement, Thomas Veil n'est pas spécialement un auteur de fantasy.
Oula. C'est marrant parce que j'ai surtout l'impression d'être un auteur de fantasy, mais... La rue Sable, c'est de la fantasy, 30 des bêtes, c'est de la fantasy. J'ai plus de mal avec la science-fiction parce que je suis pas du tout un esprit scientifique et en fait, globalement, la science dure ne m'intéresse pas. Quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la magie, c'est les contes, c'est les contes de fées, justement, mais pas forcément que le conte de Grimm. Les contes de fées asiatiques, les contes du Japon, les choses comme ça. J'ai une grosse, grosse part de mon travail quand même sur la fantasy, sur les mythes et la mythologie.
Et
Auguste
Ledrat
et
la SF, pas vraiment de relation non plus.
J'ai fait un album de SF qui était un fiasco, donc après j'ai laissé tomber définitivement. Mais j'y reviendrai peut-être un jour. C'est pas encore l'heure du jeu.
Mais dans Wicca, on a aussi l'impression de voir une continuité de ton travail d'entomologiste autour des fées, les différents albums que tu avais fait sur les fées papillons, etc.
J'aime beaucoup. Là, en ce moment, je travaille sur un livre qui va sortir en juin, qui est sur des fées steampunk, dans un portrait, des portraits comme ça, d'aventurières, d'Amazon. Et il y a tout un travail sur les ailes, là, sur les ailes mécaniques, où ouais, je reproduis la façon dont ça se plie, les ailes de coléoptères pour entendre les élytres, avec les engrenages, ça me plaît beaucoup. Il y a tout un univers de formes qui m'inspire. J'y reviens régulièrement.
Et j'ai envie de vous demander, en BD, c'est quoi vos classiques à vous ?
Mes premiers classiques, moi, c'était Blueberry, Moebius. Et puis surtout tout ce qui était comics. Après, je suis plutôt passé un peu comme il y a à Alan Moore. Je me suis beaucoup éclaté avec ça. Actuellement, je n'ai pas grand-chose. J'ai un peu du mal à me plonger dans les BD.
Moi, à la maison, il y a les Tintins, c'est beaucoup les Fantasio, ce genre de choses. J'étais pas super fan. Ce que j'aimais beaucoup le plus, c'était les Îles Noires de Franquin, quand j'étais gamin. Ça, vraiment, ça m'éclatait. Et puis, là, alors, contrairement à toi, moi, j'ai envie d'étonner. J'arrête pas. Moi, je suis très roman graphique. Là, j'ai lu le livre Café Mezzo sur Robert Johnson et Guzman. J'ai récupéré Sylvan Island, pas plus tard qu'hier. Je lis beaucoup d'amour, j'ai lu beaucoup de BD, romans graphiques historiques sur la Corée du Nord, sur la Seconde Guerre mondiale, sur petite fois en France, des choses comme ça. Alors j'ai lu pour mon plaisir, avant tout. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je l'ai lu avec l'idée d'analyser comment sont faits les scénarios, comment sont construits, entre guillemets, le jeu entre les bulles et les cases. Le jeu entre les voix off et la narration, les bulles, je regarde tout ça, je sais un peu tout ça. Donc forcément, j'en lis des tonnes et je m'aperçois que ça prend énormément de place. C'est une catastrophe.
Et après cette collaboration, est-ce que vous estimez que c'est mieux avec ou sans l'autre?
Tout seul, vous voulez dire? Non, non, moi j'aime bien travailler, j'aime pas travailler tout seul. J'aime bien, bon, bah, je peins, forcément je suis tout seul. Pour écrire un scénario, j'ai déjà vu ça avec Pat Mills, c'était pareil, je lui ai envoyé pas beaucoup d'idées, mais qui sont beaucoup trop décousues pour construire quoi que ce soit. Donc, moi j'ai besoin d'un scénariste.
Alors moi non, je vous épargne, mais je ne vais pas dessiner. Aucune chance. D'ailleurs, je lui demande qu'il détruise tous les documents graphiques que je lui passe avec la tête à Toto, les deux bras et marqué Wiki à son côté. Moi, je continue. Moi, j'ai besoin d'écrire, vraiment besoin d'écrire de la prose, des choses pour moi et qui ne se publient pas derrière. Mais, donc, je garde quand même vraiment une grosse part de travail solitaire. Je développe d'autres projets avec d'autres illustrateurs autres qu'Olivier. Et c'est vrai que je découvre ce monde, le monde de la BD. Je découvre les illustrateurs et alors il se trouve que entre Olivier Ledroit et René Polis avec qui je fais quelque chose actuellement, il n'y a vraiment aucun rapport. Et c'est vraiment plaisant, et traditionnel, couleur directe. Aurélien, il ne dessine pas, c'est tout par ordinateur, tout des photomontages, etc. etc. Ça donne d'autres ambiances, ça donne d'autres possibilités. Aurélien et Olivier n'ont pas du tout le même rapport au texte. Pas du tout les mêmes intérêts. Moi je trouve c'est vraiment passionnant je m'étais essayé au scénario de cinéma il y a quelques années, j'avais fait quelques mois, c'était dur. Donc le scénario de BD c'est très dur aussi, il ne faut pas croire que c'est simple. En tout cas moi j'ai appris cruellement que c'était difficile. Et c'est comme tous les défis, moi j'ai un côté, le côté défi me plaît, donc dès que je peux trouver quelque chose qui est un défi, qui représente un défi, je le prends. Et là faire des scénarios de BD c'est un vrai défi, et après il y a le plaisir de travailler avec quelqu'un qu'on voit souvent et qui... Alors Olivier, quand il dit qu'il a des idées, le problème c'est qu'Olivier a beaucoup d'idées. Et quand je dis beaucoup, vous imaginez pas, c'est des pages et des pages d'idées, dont on garde un ou deux trucs sur 10 pages d'idées. Donc ça c'est vrai que il y a du travail de débroussaillage. Bon après, Aurélien Polis fonctionne pas du tout comme ça, et il est vachement demandeur de tout ce que je peux apporter comme idée. C'est toujours... Quand on travaille avec des gens doués, on a toujours du plaisir. Enfin, je vois pas comment c'est pas possible. Donc, je travaille avec deux personnes qui sont vraiment très douées. Ça fait beaucoup de plaisir à investir ce monde-là, de la BD, que je découvre. Hein. Ça fait vraiment un an et demi que je suis dedans. Et, ça, entre autres, c'est ma planche préférée d'Albert. Voilà. Tout ça pour dire que. Toi, tu as dit que tu n'arrêterais jamais de faire de la BD. Moi, je pense que j'arrêterai jamais d'écrire tout seul. Ça n'arrivera pas. Et de toute façon, j'ai très peur de me limaniser pour que j'en connaisse Serge Lehmann. C'est-à-dire d'arrêter l'écriture de la prose et de faire que de la BD. Ça, c'est un peu une inquiétude pour moi. Donc là, j'écris un roman, par exemple. Je suis vraiment dans un truc. Et je veux que ça fonctionne.
C'est bon. Donc, moi, j'ai posé un certain nombre de petites questions pour vous mettre en bouche. Maintenant, je vais passer auprès de vous. Celui qui veut prendre un petit papier dans l'enveloppe. C'est pas vraiment une question, c'est un concept.
Matière.
La matière.
La matière. Dans Weekend, on dit matière. Ça, c'est évident. Moi, c'est un travail que j'aime bien. Si vous voulez. Il y a une part, moi j'aime bien laisser une part de chaos dans mon travail. Donc je pars souvent de crayonner assez succinct, que je peaufine petit à petit, mais je ne m'empêche pas de faire une sorte de tâche, etc., qui m'amène sur des choses que je n'aurais pas pu développer intellectuellement. Il faut je me laisse aider par le hasard. Hein. Donc. J'utilise les matières, les collages. Sur les BD, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un cadre narratif qui est quand même très construit. Donc c'est un petit peu moins propice, mais je fais le maximum pour laisser ce côté se développer. Alors ça veut dire dire, beaucoup de, d'essais de contraste et de lumière. Et il y a la texture du papier, tout l'aspect technique pictural que j'essaie de développer. Sur Wicca, mais aussi sur ce que j'ai fait précédemment. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un livre qui s'appelait Belle de nuit. Et Belle de nuit, qui est un travail entre le rapport de la texture de la peau avec la texture de la dentelle et les matières picturales. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Quelle féerie, quelle tradition féerique avez-vous eu envie d'illustrer, de décrire ?
Oui. Quand on regarde bien toute cette production féerique, on tombe toujours sur la même chose. C'est-à-dire que les fées sont toujours développées, c'est des nouvelles images du, qui sont assez imbuvables. Donc en général, j'essaie de démastiquer tout ça au maximum. C'est pour ça que Wicca est toujours dans des positions invraisemblables. Parce que j'essaie d'éviter toute cette féerie que je trouve un peu vomitif quand je fais ça. J'aime bien après tout ce qui est l'aspect féerique développé par Brian Froude, c'est-à-dire tout le côté malicieux, ricanant. Et un peu inquiétant. Mais voilà, il y a aussi il y a quelque chose qu'on essaie d'inventer dans Wicca, c'est tout l'aspect fait noir, limite cuir gothique, des petits aspects sadomaso. Ça c'est un peu nouveau qu'on fait aussi. Donc voilà, qu'on a la féerie, ça c'est pour l'un comme pour l'autre, je pense que c'est un peu un chouette, quoi, sur différentes facettes, pour voir comment on va s'améliorer.
Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est quelle féerie, c'est vraiment une question intéressante parce que en fait quand j'ai commencé à travailler sur Wicca, j'avais envie de revenir à un petit peu la base du conte de fées et pas les Walt Disney, je déteste Walt Disney, qui crève, enfin il est déjà mort, mais. Et là, pour moi, le vrai conte de fées, c'est quelque chose qui parle de la cruauté. Les vrais contes de fées sont extrêmement cruels. C'est toujours des parents qui mangent leurs enfants, des parents qui perdent leurs enfants en forêt. Où ils sont aussi, ils peuvent être vulgaires. Enfin, il y a un côté, il peut y avoir un côté sur la mer, ou sur l'urine, etc. Enfin bon, c'est pas forcément des choses très propres. Et j'avais envie de revenir à ça, alors peut-être par là-bas, pas frontalement, mais j'avais envie que. Il y a un truc qui me surprend toujours quand je lis des BD aujourd'hui, c'est quelque part la volonté qui fait qu'on ne tue pas les personnages s'en sortent toujours, c'est toujours extravagant la façon dont les personnages s'en sortent, mais globalement les séries de BD sont faites pour des lecteurs qui vont s'attacher à tel personnage, et donc on ne va pas tuer tel personnage, etc. etc. Moi dans Wicca, je voulais dès le départ que les personnages aient la capacité de dégager, et que, un petit peu comme dans le Trône de Fer, mais... sans que ce soit aussi frontal que ça, que les gens ne soient pas sûrs que les personnages qu'ils aiment, qu'ils ont découvert dans le tome 1 de Wicca, ben, seront dans le tome 2, seront dans le tome 3 et seront dans le tome 4. Et quelque part, il y a une cruauté, il y a une hécatombe, parce qu'il y a des personnages qui disparaissent, qui ne reviendront pas. Les personnages qui disparaissent, qui reviennent, parce qu'on est dans un monde féerique, et que dans le tome 3, il y aura le Cid, le Cid, c'est une espèce d'après-vie, c'est le monde des fées, c'est le monde de pan. Mais le monde souterrain, le monde des morts. Et je voulais ça, je voulais qu'on revienne à des choses peut-être un peu moins lisses, un peu moins Walt Disney, un peu moins prévisibles, avec des choses prévisibles, donc je ne vais pas se spoiler l'album, mais un des personnages principaux qui dégage à la fin. Et par ailleurs, alors, le feu noir, c'est vraiment l'apport d'Olivier, puisque quand Olivier est venu pour Wicca, il avait déjà dessiné le feu noir. Ce ne sont pas celles qu'il a choisies pour l'album tel qu'il est maintenant, que tu en avais fait quand même pas mal. Et c'est vrai que c'est marrant, alors, dans le tome 2, il y a toute une scène avec l'effet noir d'habillage, où Lucas s'habille gothique, Lucas s'habille comme ci, comme ça, etc. etc. Il y a un aimant un peu funky, un peu fun. Et voilà, c'était marrant de voir des faits fun qui s'éclatent, qui coûtent du kiss. Quoi. Je crois que ça n'a pas été souvent en BD.
Vous parlez de cette première expérience ?
Les chroniques de la Lune Noire, ça remonte à 25 ans. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que je faisais. J'étais en pleine insouciance. Donc, on m'a proposé de faire une première bande dessinée quand j'avais 18 ans. J'ai sauté dessus et j'ai appris sur le tas, quoi. Les chroniques de la Lune Noire, ça a commencé comme ça. Après, ça reste une collaboration compliquée. Fradval, je m'entends mieux avec depuis que je ne travaille plus avec lui. Quoi. C'était vraiment difficile. Donc, j'ai un rapport mitigé avec les chroniques. J'ai beaucoup d'affection pour la série, mais je suis content de ne plus la faire.
Secondes pour devenir un aigle. Voilà, c'est pour moi. Donc c'est mon dernier livre en date, en tant qu'écrivain solo. C'est un recueil de nouvelles sur le rapport à l'environnement. Alors, quand on dit rapport à l'environnement, tout de suite on pense à la nature, etc. Mais pas que, ça peut être l'environnement urbain, ça peut être l'environnement virtuel, l'interface avec les ordinateurs, les tablettes, Internet et tout ça. Globalement, c'est un livre qui présente des futurs qui vont pas très bien. Des futurs où les tigres disparaissent, où ont disparu. Des futurs où l'humanité est traquée par des intelligences artificielles, des choses comme ça. Et c'est un livre que j'ai pas écrit pour mes enfants, mais que j'ai écrit parce que j'ai des enfants et parce que actuellement je suis assez... Alors, comme tout le monde, inquiet de l'état du monde, ça c'est rien, enfin c'est un euphémisme de dire qu'on est inquiet de l'état du monde, mais je suis plus, ça va au-delà de ça, c'est que je suis inquiet du manque de perspective qu'on offre à la génération qui vient après la mienne, la génération de mes enfants ou la génération qui a 15 ans aujourd'hui. Moi j'ai grandi dans une époque d'insouciance, c'est idiot de dire ça, mais quand j'étais gamin, je lisais Tintin qui me plaisait pas trop. Il n'y avait pas la télé chez moi, donc il y avait beaucoup de bouquins, je disais Jules Verne, c'était les aventures extraordinaires, etc. etc. Et puis, il n'y avait pas le rapport qu'on a continuel avec les informations, les désastres, les catastrophes. Il n'y avait pas ça, moi je n'ai pas connu ça dans mon enfance. Et puis il y avait la conquête spatiale, alors c'était le fruit de la guerre froide, etc. Mais bon, les enfants ne comprenaient pas ce que pouvait être la guerre froide, le fruit de la guerre froide, les conséquences de la guerre froide. Mais, moi, je suis dans 71, donc 2 ans après le premier pas de l'homme sur la Lune. Et j'ai grandi avec des parents cultivés qui me faisaient lire, qui me laissaient lire tout ce que je voulais, quasiment. Et j'avais fauché ce qu'ils voulaient pas que je dise. Et donc, je disais Jack Vance, je disais Frank Herbert, Dune, je disais tous ces trucs-là, je disais Lovecraft. Et alors, Lovecraft, bon, c'est pas vraiment des perspectives fascinantes, mais Jack Vance, c'est des planètes colorées avec des aventures. Pugel l'astucieux, c'était très facétieux. Moi j'ai grandi avec Elric, de Michael Moorcock, qui est là en ce moment, et qui, si on m'avait dit à 15 ans que j'allais publier Michael Moorcock et devenir son ami, je pense que je l'aurais jamais cru. Elric, c'était très important que j'avais 15 ans. Donc, moi je vois que mes enfants ne grandissent pas vraiment comme ça, que j'arrive pas à leur couper, à les couper complètement des informations désastreuses. Ils me posent des questions sur Ebola, parce qu'ils ont entendu Ebola à l'école, etc. etc. Et donc, 7 secondes pour devenir un ex, c'est le constat de ça, c'est le constat que moi, écrivain et père de famille, je vis dans un monde où il y a très peu de perspectives et où les perspectives se resserrent. Et c'est juste normal d'être un petit peu angoissé par ça. Et donc, voilà, c'est la psychothérapie. J'écris un livre pour me débarrasser de mes angoisses.
post-apocalyptique.
C'est encore pour moi, ça.
C'est pour, non, c'est pour vous deux, parce que Wicca a aussi un côté post-apocalyptique.
Wicca, assez peu, non. Moi, j'avais travaillé sur post-apocalyptique dans... Comment ça s'appelle ? La Porte Écarlate, qui est inspirée de Philippe Cadic. Et bon, à l'époque de Cadic, il y avait quand même aussi un manque de perspective. C'était la guerre froide, donc on avait peur de beaucoup. Mais je me rappelle quand même. Ouais, ouais. À l'époque post-apocalyptique, c'est vrai que c'est un truc qui me fait pas mal fantasmer. Le seul truc de SF que j'ai fait, d'ailleurs, c'était par rapport à ça. Bah, c'est le côté Mad Max, j'ai toujours adoré. Quoi. Et puis aussi la disparition de l'homme. J'aime bien travailler sur des idées comme ça. Bon, après, ça reste un peu limité pour moi.
L'écoute, c'est aussi une certaine disparition de l'essai.
Oui, c'est un peu un reflet de la période contemporaine avec la disparition ouais, de beaucoup de choses, des enchantements, mais de la nature, et puis de la solitude aussi, on est tout le temps très nombreux partout. Donc, Wicca, il y a un petit reflet comme ça, donc, un peu désolé de l'avancée de la société.
Dans Wicca, il y a quand même l'idée à laquelle je tenais beaucoup, que la magie du monde s'épuise. Qui est un truc qui me fascine, qui m'a toujours très intéressé. Parce que si on regarde le rapport qu'on a, je ne sais pas comment dire, le rapport qu'on a aux corrigans, aux fées, à la magie, etc., dans le système occidental, et qu'on réfléchit au rapport qu'avaient les gens d'il y a 100 ans vis-à-vis de ça, ou d'il y a 200 ans, le rapport n'est pas du tout le même. Quoi. Et dans certaines sociétés, moi je vais beaucoup en Asie du Sud-Est. Et en Asie du Sud-Est, on rencontre régulièrement des gens qui ont des tas de croyances sur les fantômes, sur certaines créatures, etc. etc. Et pour eux, c'est vrai, c'est dur comme du bois, ils ne s'y portent vraiment. Quoi. Bon, on voit moins ça de nos jours. Et je trouve ça un peu triste. Moi, ça la magie du monde me fascine, les lieux magiques me fascinent. Pour en revenir au post-apo, alors j'ai toujours eu, ça a été toujours un truc qui m'a fasciné, que ce soit la Statue de la Liberté renversée à la fin de la planète des singes dans le film avec Charlton Heston, que ce soit Mad Max 2 avec ses scènes de poursuite en bagnole. Je trouve que le post-apo, c'est... tous ces films-là, sont, quand vous y réfléchissez deux minutes, sont complètement idiots. Si vraiment c'est la fin du monde, vous n'allez pas aller vivre dans un désert où il n'y a pas d'eau. Vous allez vivre dans un endroit où il y a de l'eau, c'est le premier truc. Et vous vous moquerez de savoir si vous êtes des singes ou pas, ce qui apportera pour vous, c'est que vous ayez de l'eau. Mais une fois qu'on a résolu ce truc-là, on est face à des films où il y a une vraie esthétique de la catastrophe. Et à cette esthétique de la catastrophe qui a été probablement introduite par Marie Chilé dans Le Dernier Homme, et qu'on retrouve beaucoup dans les 50-60 avec la peur de l'hiver nucléaire, la peur qu'on retrouve chez Walter Miller Jr., qu'on retrouve chez Ballard. Moi, c'est toujours un truc qui m'a fasciné, les villes désertes, les films à moitié détruites, les endroits désertiques, j'adore ça, je trouve ça d'un point de vue esthétique. C'est Fallout 3, les jeux vidéo, c'est un pur chef-d'œuvre. Et ça a un énorme potentiel, et c'est un vrai potentiel esthétique avant tout. Ce serait génial que ce soit comme ça.
J'avais envie de faire Je suis une légende, hein, moi. C'était une idée, ça. Mais bon, comme le film est sorti, on l'a pas fait. C'était qu'il n'y ait pas de sexe. Puisque ça devait s'adresser à des jeunes filles de 13 ans à peu près. Donc ça a été très limité, mais bon, après, c'est dans le scénario, de façon sous-jacente, et comme il y a une histoire d'inceste, etc., obligatoirement, il y a un sexe, il y a des rapports sous-jacents. Bon, après, moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus avant Wicca. Et c'est quelque chose sur lequel j'aime bien travailler. J'ai encore jamais rien fait de pornographie. Mais parce que j'ai pas encore trouvé une esthétique pour un angle pour réaliser. Mais oui, effectivement, la bande dessinée, c'est très propice à cette art-là, à la
réalité. Il n'y a qu'à voir les Lost Girls d'Alan Moore et Melinda Guedes.
Alors, si on dit sexe, ce que j'ai envie de répondre tout de suite, c'est très important. C'est déjà une chose. Mais surtout, Wicca, pour moi, c'est l'histoire de... C'est le coming of age. Quelque part, c'est un roman d'apprentissage. Et c'est le roman d'apprentissage d'une fée. Alors, c'est pas le roman d'apprentissage d'une jeune fille. Mais j'avais dit à Olivier, je continue à être complètement convaincu de ça. D'ailleurs, Olivier a eu des suggestions qui étaient très bonnes à l'époque pour ça. Wicca, parmi toutes les épreuves qu'elle a traversées dans sa vie, il y a l'épreuve des règles, l'épreuve de la sexualité, l'épreuve de la découverte, etc. etc. Parce que ce ne sont pas forcément des épreuves négatives, mais ce sont des jalons. Et ce personnage-là, dans le tome 1, il naît, et il a ses premières règles, il a son premier rapport sexuel. Et puis dans le tome 2, il se passera encore des choses qui sont liées au sexe, et ainsi de suite dans le tome 3. Quelque part, c'est aussi revenir aux racines du conte de fées, où dans les vrais contes de fées, les premiers, ceux qui ont 500 ans, 400 ans, c'est très sexuel. Et quand c'est pas sexuel d'un point de vue frontal, c'est très sexuel au niveau des sous-entendus. Après, ce que Olivier oublie de dire, c'est que au départ, il m'avait contacté pour que je fasse la BD, le scénario, à destination de sa fille de 12 ans. Et donc, chaque fois qu'il avait des idées, disons, ça débordait un petit peu, j'étais obligé de lui dire « Non, mais tu voudrais vraiment que ta fille de 12 ans voit ça ?» Et il me disait « Ah non, t'as raison, là c'est peut-être un peu trop. » Voilà, donc on s'est mis nous-mêmes nos barrières, mais Wicca, c'est un... Enfin, je pense que quand vous voulez vous adresser à des adolescents, des jeunes filles, la sexualité fait partie de leur vie, la découverte de la sexualité fait partie de leur vie. Vous n'allez pas faire une BD où le personnage est complètement asexué. C'est ce que j'ai toujours, c'est ce qui m'a toujours gêné chez Tolkien. Je suis un grand fan de Tolkien parce que la composante sexuelle, il n'y a pas de femme chez Tolkien, ils n'ont pas de problème sexuel, ils n'ont aucune sexualité. C'est presque, pour moi, ils n'ont pas de chair. Moi, j'aime travailler dans la chair, j'aime travailler. C'est ça qui m'intéresse vraiment, les personnages. Je veux qu'ils aient, entre guillemets, des problèmes de tuyauterie, je veux qu'ils aient des problèmes de sexualité, je veux qu'ils soient. Qu'il soit vivant, mais que nous on est vivant. Mais on transpire, etc., etc. Je veux que dans les BD, dans les livres, ce soit pareil. Les personnages soient vivants, qu'ils soient incarnés. Je crois beaucoup à l'incarnation des personnages.
Tatouage.
Moi, j'ai pas mal travaillé sur les tatouages avec Requiem. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors, Requiem, c'était des tatouages maléfiques, etc. Et en fait, on a été sur la série, on a été pas mal rattrapé par le public. Quoi, parce que quand j'avais commencé Requiem, moi j'avais envie de faire une histoire de vampire, et puis pourquoi pas. Quoi. Et on a été contacté par. Des magazines, festivals, bars, etc. Tout ça autour du mouvement gothique et puis du mouvement du tatouage. Quoi. Donc j'ai fait pas mal de salons de tatouage, j'ai vu un peu tous les styles, comment tout ça se faisait. Quoi. Et quand j'ai travaillé sur Wicca, bah, tout naturellement, j'ai commencé à réfléchir à des tatouages magiques. Quoi. Alors au tout départ, Gilles voulait quelque chose de plus ethnique, mais. Comme j'avais peur de retomber sur le tatouage de Requiem, parce que, bon, grosso modo, je fais un peu toujours les mêmes formes. Je suis un peu obsessionnel. Donc, j'ai préféré quelque chose de plus figuratif. Je sais plus, je crois que c'est toi qui as décidé que les tatouages avaient changé, évolué à chaque fois par rapport à ses émotions. Quoi. Mais bon, à l'arrivée, c'est un bon système. Quoi. Et là, je suis en train de. Bah, toujours sur mon bouquin, je vais les sortir en juin sur les. Sur les festivals, il y a tout un travail sur le tatouage. Et comme je fais des gaïchas steampunk, il y, il y a aussi tout un tas de travail sur le tatouage qui est vachement intéressant.
Je suis un peu tatoué contrairement à lui. Moi j'aimais beaucoup l'idée de tatouage mobile de Wicca, mais quand elle est triste, elle a les têtes de mort qui apparaissent sur son visage, quand elle fait l'amour, c'est des fleurs qui éclosent, etc., etc. C'est une idée que je trouvais vraiment, vraiment intéressante dans le scénario, un truc à exploiter, à travailler. Donc c'était très plaisant.
Je vais continuer sur une citation de Thomas Day, en fait, qui, dans Lumière noire, dit « Tu préfères la contrainte au minuscule sacrifice de la raison. » Est-ce que cette phrase vous parle à l'un comme à l'autre ?
Alors moi, dans mon cheminement personnel, qui est assez court, mais qui a jamais eu lieu, j'ai tout un truc sur le renoncement. Je pense que c'est un truc très bouddhiste, c'est un truc que j'ai expérimenté pas mal en Asie et aussi en France. Et je pense qu'il faut s'obliger régulièrement à renoncer à certaines choses. Parce que si on ne s'oblige pas à renoncer à certaines choses, on reste sur une mentalité d'enfant gâté. Alors moi j'ai des renoncements qui ont été très violents. J'ai renoncé à avoir un domicile pendant un certain temps, deux fois dans ma vie. Là, j'ai de nouveau un domicile, j'en ai pas eu pendant trois ans. J'ai un tas de renoncements, j'ai pas la télé, j'ai pas internet. Ce genre de choses. Donc la phrase dans cette nouvelle, en fait, elle se réfère à notre mode de vie et à notre impact sur la planète. On a, nous occidentaux, alors, les Américains, c'est pire. Mais nous, occidentaux, on a un mode de vie absolument catastrophique en termes de bilan énergétique et autres. On consomme trop d'énergie, on gâche trop, on pollue trop. Et si on avait fait, mais c'est trop tard maintenant, il fallait faire ça dans les années 50, les années 60, si on avait vraiment, au moment où les gens commençaient à avoir des lave-vaisselles, des lave-linges, tout le confort, qu'ils avaient réfléchi à l'impact de tout ce confort qui venait, si on avait réfléchi à ça et qu'on avait inversé un petit peu la tendance, je pense qu'on irait mieux. Mais donc c'est ça, est-ce qu'on est vraiment tous obligés d'avoir une machine à laver le linge ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir pour 3-4 foyers une machine à laver ou dans les immeubles, un endroit machine à laver buanderie pour tout l'immeuble qui consommerait moins d'eau, donc on pourrait réfléchir. Est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre la bagnole pour un oui, pour un non, tout le temps je n'ai pas de voiture, par exemple. Quand j'ai besoin de voiture, je m'en fais prêter une par mon père. Ça m'arrive pas très souvent, mais voilà, ou j'en loue une si j'ai besoin d'aller quelque part en vacances avec mes enfants et tout. Il y a plein de petits gestes qu'on peut faire pour améliorer le sort de tout le monde. Et on ne fait pas. Et dans Lumière noire, la contrainte, c'est... c'est qu'il y a une intelligence artificielle qui prend le pouvoir, qui a un but à elle, et nous on n'est rien comparé à cette intelligence artificielle, on défend nous. Elle ne se soucie pas tellement de nous, mais nous on la gêne. Et on la gêne parce qu'on est extrêmement énergivore. Et donc elle nous régule. Mais elle ne nous régule pas pour nous réguler, c'est pas Terminator, elle n'a pas l'intention de nous annihiler. Elle nous régule parce qu'on pompe l'énergie dont elle a besoin pour ses propres projets. Alors voilà, je pense que c'est trop tard, malheureusement. Je pense que changer les ampoules. Et trier les ordures, c'est absolument pas suffisant. Mais il y a 30, 40, 50 ans, on aurait dû avoir une réflexion sur plus de contraintes dans nos modes de consommation d'énergie et autres. Et que cette réflexion, on l'a pas eue. Et que nos enfants, là, commencent à l'avoir. Enfin, je vois les miens, ils font attention, etc. etc. C'est plus naturel pour eux. Et je vois la génération de mon père, par exemple, père qui a 75 ans. Mon père, il roule en 4x4, qui bouffe 15 litres d'essence. C'est à la rigueur, il aurait presque un autocollant feu écologique derrière le 4x4 pour montrer à quel point ils s'en foutent. Et ça, là, il y a quelque chose de criminel. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de criminel. Alors, c'est mon père, je lui ai dit qu'il y avait quelque chose de criminel là-dedans. Enfin, quoi, il dit, les écolos, faut chier. Mais, voilà, il y a une prise de conscience qui n'a pas eu lieu. Elle aura peut-être eu lieu via nos enfants ou via la génération qui a 20 ans aujourd'hui. Mais on a déjà perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup d'espèces animales, beaucoup de lieux naturels, sauvages, etc. Enfin, moi, je vois quand même j'ai un gros sentiment de gâchis. Enfin, je sens, je voyage beaucoup et je vois beaucoup de gâchis, et pas du gâchis alimentaire, beaucoup de gâchis dans plein de trucs qui sont utiles.
Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question, parce que nous approchons de la fin? Alors, avez-vous envie de dire un petit quelque chose pour finir, ou est-ce qu'on s'arrête?
On va partir pour la dédicace à 16h. Si vous voulez continuer à discuter avec nous en vis-à-vis, tout ça, ce sera plus simple.
Merci à tous d'être venus. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces questions. Merci.